12h38 jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Aujourd'hui, dans nos studios, le plaisir d'accueillir à vos côtés Emmanuel, Gilles Gerbier et Michel Mayor.
Oui, à l'occasion d'un événement à plus d'un titre qui s'est ouvert hier sur l'île de Noirmoutier. Un rendez-vous inédit avec des scientifiques de renom du monde entier qui vont se parler en langage scientifique de leurs recherches, de leurs avancées sur le thème, je cite, des aspects sombres de l'univers. Il y aura aussi des temps forts réservés au grand public, aux scolaires. Et c'est aussi la force de ce colloque. Je suis absolument ravie de vous recevoir, messieurs. Un des organisateurs, donc Gilles Gerbier, et puis ce scientifique aussi de renom, Michel Mayor, prix Nobel de physique en 2019. Bonjour et bienvenue, messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous propose, avant de parler du programme qui est bien chargé cette semaine, qui a démarré d'ailleurs hier, eh bien, de vous présenter. Alors, peut-être on va commencer avec vous, professeur Michel Mayor. Vous êtes suisse, vous nous venez de Suisse. Vous êtes à l'origine docteur en astrophysique, mais ça réduit presque tout votre travail. On vous doit des avancées considérables en matière d'études d'étoiles, de leur vitesse. En 1995, avec un de vos doctorants qui s'appelle Didier Queloz, vous détectez pour la première fois une planète hors du système solaire. Vous l'appelez l'exoplanète 51 Pegasi B. C'est un événement considérable puisque depuis cette première planète, exoplanète découverte, ce sont des milliers qui ont été détectés. On peut dire que vous avez ouvert un champ de savoir extraordinaire.
Oui, disons, on n'est pas les premiers à se préoccuper de savoir s'il existe d'autres mondes, pour prendre la vieille terminologie, dans l'univers. Déjà, il y a plus de 2000 ans, les gens discutaient déjà de cette possibilité. Bon, après, évidemment, on n'avait pas la technologie pour dire quoi que ce soit. Et puis, nous, on a la chance actuellement où la technologie nous permet de découvrir de telles planètes. Donc, si les gens doivent se rappeler que d'une seule chose, une exoplanète, c'est simplement une planète qui tourne autour d'une autre étoile. Donc, vous regardez le ciel, vous voyez toutes ces étoiles, et vous devez vous dire que chaque, ou quasiment chacune, a des planètes qui lui tournent autour.
Et quand vous parlez des outils, bah vous avez fait avancer, vous, la recherche et les outils de recherche?
Oui, le problème, c'est que la planète est légère par rapport à l'étoile. Donc, l'étoile ne bouge pas beaucoup à l'influence de la planète. Donc, pour détecter les variations de la vitesse induite par la planète, eh bien, il faut avoir un spectrographe, un instrument qui mesure très précisément la vitesse des étoiles. Il n'y a pas beaucoup de photons qui viennent des étoiles, donc voilà, il fallait un instrument un peu particulier qui a été construit à l'Observatoire de Haute-Provence, en France, en collaboration avec justement des scientifiques de cet endroit-là.
Donc vous faites partie. Est-ce que vous vous souvenez du jour, en 1995, ou alors peut-être une autre année, je ne sais pas, vous avez découvert cette exoplanète? Est-ce que vous avez dit Eureka?
Alors, il n'y a pas vraiment d'abord un moment de Eureka. Pourquoi? Parce que la découverte se fait en analysant une série de mesures. Donc on a un point, on mesure la vitesse, on la répète une semaine après, un mois après, etc. Et c'est seulement quand on analyse la série de mesures qu'on voit que tiens, il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici. Et c'est un objet tellement particulier, tellement hors de ce qui était attendu, que prudence, on a décidé d'attendre l'année suivante, quand l'étoile revient dans le ciel, pour refaire des mesures et voir si le phénomène était permanent, était toujours là. Et s'il y a eu un moment un peu plus festif, où vraiment on s'est dit, oui, voilà, c'est juste, c'est en 95, en juillet, on avait des mesures là, à ce moment-là, et bien tout d'un coup, le mouvement de l'étoile suivait exactement ce qui était prévu l'année d'avant. Voilà, et on était sûr.
Et quand vous découvrez, c'est une grande joie. Oui, en fait, vous faites une
fête. Ah oui,
en fait. Un petit peu.
Ah oui, la plus terrible de vie, là, à ce moment-là.
Le jour où, quelques années plus tard, quand même, vous recevez le prix Nobel de physique pour cette découverte, ça, vous vous en souvenez de ce jour-là aussi?
Ah oui, quand même, je m'en rappelle. Oui, j'étais pas. D'habitude, je crois que l'usage est d'avertir un peu avant la personne qui le reçoit. Et moi, je détestais avoir l'idée d'avoir un téléphone portable, donc ils n'ont pas pu m'avertir. J'étais en Espagne pour faire du babysitting de mes petits-enfants. Voilà.
Et là,
c'est
comment dire,
tout à fait un peu indirectement que j'ai appris que je l'avais reçu. Bon, évidemment, je suis content. Oui.
Vous avez reçu beaucoup, beaucoup de prix, hein, de médailles scientifiques. C'est quand même une reconnaissance qui grave quelque part votre nom dans l'histoire de la science aussi.
C'était une vieille interrogation de toute l'humanité. Au cours des deux derniers millénaires, les gens s'intéressent, et c'est une question qui intéresse n'importe qui. C'est pas compliqué de formuler la question. Donc c'est vrai que voilà, maintenant on voit que par le nombre de chercheurs, parce que c'est un nouveau chapitre maintenant, le nombre de chercheurs qui travaillent dans ce domaine, le nombre de satellites qui sont lancés, évidemment ça stimule l'imagination des gens. Hein. Et en plus, à la clé, ce qui se cache là derrière, c'est est-ce qu'il y a de la vie sur une de ces planètes ?
Voilà, et vous allez peut-être répondre à cette question ce soir. On va en reparler. Il y a une conférence ce soir à l'Historial de Vendée. Ça va être une des questions, évidemment. Je vais vous la poser, hein, mais on va quand même se tourner vers Gilles Gerbier, qui était aussi patient. Alors, Gilles Gerbier, vous êtes un des co-organisateurs hein, de ce rendez-vous. Vous êtes aussi professeur de physique, chercheur aussi.
Alors, je suis maintenant chercheur et professeur émérite.
Émérite.
Alors, j'étais à travailler la plupart de ma carrière au CEA, au commissariat à l'énergie atomique dans la région de Paris, à Saclay, dans le centre de Saclay. Et les 7 dernières années, je les ai passées à Queen's University au Canada, toujours pour des projets de recherche de matière noire.
Qui va être un des sujets importants de cette semaine de colloque.
Exactement.
Exactement. Alors ce colloque, il est scientifique. Vous faites venir vraiment des scientifiques du monde entier à l'Épine cette semaine ?
Tout à fait. Depuis le Japon jusqu'à l'Afrique du Sud, enfin, et en passant par les États-Unis, l'Europe.
Et en passant par la Suisse, avec Michel Melior qui
bien
fait
sûr.
Partie évidemment de ces
c'est
chercheurs.
Pas trop loin.
Le DSU Toul 2024, c'est le nom. Hein. Autrement dit, outil pour l'exploration des aspects sombres de l'univers. Alors qui participe et quel est l'objectif de ce colloque ?
Alors un petit mot sur aspects sombres de l'univers. Ça traduit juste le fait que l'univers, on n'en connaît pas beaucoup. On en connaît une petite fraction. Ce qui compose les étoiles, ce qui compose notre matière à vous et nous autour de ce micro ici. Et il y a beaucoup d'aspects qu'on ne connaît pas, en particulier la matière noire, mais aussi ce qu'on appelle l'énergie sombre. On est en train de découvrir comment fonctionne la gravité. Enfin, on a déjà découvert les ondes gravitationnelles. L'étude des neutrinos, qui sont aussi des particules qui composent l'univers, on n'en connaît pas encore tous les détails. Et puis, tous ces aspects-là font l'objet de ces échanges pendant cette semaine, c'est-à-dire qu'on travaille de 8h30 le matin jusqu'à 5h, 5h30. On a des échanges, des présentations de tous les chercheurs pour qu'ils comparent, pour qu'ils voient l'évolution des choses.
Donc c'est un temps très très fort. Comment vous arrivez sur l'île de Noirmoutier pour ce colloque ?
Ah, comment on est arrivé là ? Ça c'est une excellente question. La conférence est co-organisée par l'association Physique Outre-mer et par un laboratoire du CNRS, IMT et Université de Nantes à Nantes, donc justement. Et l'association Physique Outre-mer, comme son nom l'indique, organisait des événements outre-mer. Donc avant, en Guadeloupe et à La Réunion. Et suite à la dernière conférence à La Réunion en 2022, on s'est dit, où allons-nous aller ? Et habitant de l'île, Noirmoutier, moi-même, j'ai proposé, pourquoi pas à Noirmoutier ? On est bien dans le thème Outre-mer, n'est-ce pas, sur une île. Donc, le comité d'organisation a suivi, et voilà pourquoi nous sommes ici.
Donc toute la semaine, il y aura ce volet purement scientifique, très pointu, très technique aussi. Mais vous avez souhaité ouvrir ce rendez-vous au grand public et au jeune public. Michel Meilleur, vous allez demain rencontrer des collégiens de Lille. Mercredi, sont des élèves du lycée Notre-Dame de Chaland qui vont venir. Et plusieurs des scientifiques qui participent au colloque vont aller dans la semaine dans des collèges et lycées de Vendée. C'est exceptionnel pour les élèves, mais pour vous, c'est important pour vous, Michel Meilleur, de venir partager votre savoir, votre passion aussi.
Moi, je crois que c'est absolument fondamental parce que, comment dire, d'abord, les découvertes de la science, c'est beau, c'est intéressant. Les gens sont intéressés par ça. Et donc, ça n'a aucun sens qu'un certain nombre de personnes dans leur laboratoire fassent des travaux et n'en parlent pas. Donc, c'est évident qu'il faut enthousiasmer les gens pour ce qui se passe. Et en fait, le public répond. C'est vraiment, il y a un intérêt. Les gens ont envie de savoir. C'est des questions du genre l'évolution de l'univers comme un tout. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, etc. Comment fonctionne le cerveau, vrai, dans tous les domaines de la science. Donc oui, c'est un devoir. Et ça, c'est un des points forts de cette physique d'outre-mer. Je me rappelle de celle qui était à La Réunion, où, 60 événements scolaires ont été organisés, plusieurs conférences grand public. Comment dire, il y avait un enthousiasme, et sur des questions qui peuvent paraître même difficiles. Comment dire, le boson de Higgs, qu'est-ce que c'est ? On se dit, mais qui va être intéressé par ça ? Et puis, il faut une heure de questions après la conférence. Incroyable ! Comment dire, voilà, donc on peut intéresser les gens à la science.
Et justement, ce soir, je pense qu'il y aura beaucoup de questions à l'historien de Vendée, parce que vous sortez aussi de Lille. Ce soir, vous serez Michel Mayor au Luxe sur Boulogne, toujours dans le cadre de cette semaine, dans cette conférence sur le thème « Sur les exoplanètes, la vie ?» Point d'interrogation, évidemment, c'est ce point d'interrogation qui anime vos recherches.
Comment dire, voilà, longtemps, les gens se préoccupait de la question « Existe-t-il d'autres planètes autour des étoiles ?» Bon, maintenant, on sait, et il y en a beaucoup. Le problème, la question qui existait déjà depuis fort longtemps, c'est « Est-ce qu'il existe de la vie ?» Alors, actuellement, vous m'avez évoqué le problème « Est-ce que je pense qu'il y en a ?»
Oui,
est-ce
que vous avez des convictions ?
C'est pas une question scientifique. Le problème,
non,
disons,
c'est conviction
personnelle. On peut avoir des sentiments personnels, mais au niveau scientifique, dire est-ce qu'on peut construire des instruments qui le prouvent ? Donc actuellement, on est dans ce moment-là. Il y a des efforts gigantesques qui sont faits pour détecter des instruments. On n'ira pas là-bas. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas du tout en faisant un voyage, aller regarder et tout. Donc c'est uniquement des recherches à distance. C'est uniquement voir ce qu'on appelle des biomarqueurs, des petites altérations chimiques dans les atmosphères qui nous disent « oui, il y a de la vie qui s'y passe ». Et c'est fabuleux. Comme question, c'est enthousiasmant pour les jeunes. Vous voyez, c'est une chose qui me tient très à cœur. Imaginez qu'on soit dans un stade de la science où, en gros, on ait répondu à toutes les grandes questions et qu'on lègue aux futures générations juste d'améliorer une décimale, enfin rien du tout comme ça. Non, maintenant, la masse cachée, l'expansion accélérée de l'univers, la présence de la vie, la compréhension du cerveau, etc., c'est qu'une foule de grandes questions. Fabuleux.
Fabuleux pour ces jeunes qui vont peut-être devenir aussi des chercheurs comme vous. Alors pour en savoir plus, on vient vous écouter et vous questionner ce soir au Luxe sur Boulogne. Et puis demain, vous serez aussi au Salorge au cours d'une table ronde sur la vie des stars. Les stars, ces étoiles dans le ciel évidemment, mais aussi sur Terre avec vous. Il y aura notamment Alexandre et Céline Couillon ou Chloé Trespeuch. On va en parler dans 3 minutes de ce rendez-vous assez amusant. Et puis toute la semaine, vous avez d'autres temps forts grand public.
Et c'est juste après Sylvain Dutu sur Neuve avec les jours qui restent.
Ce soir, on n'irait pas danser très tard. Même si c'est pas ton genre, je sais. Même si tu es plutôt discret, on parlera de tout, de rien. On fera le monde, j'y connais rien. On se dira ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu être. Mais ce qu'on aurait pu être, mais qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Le même refrain, jamais le temps de rien. Dans l'océan, gardez le lien. Paris, Biarritz, avril ou juin. Pas beaucoup vu, vie dans les trains. Les disparus sont jamais loin. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance, non, non. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance. Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
Sylvain Dutu, un instant, si on a vécu jusqu'à 13h, c'est passionnant. Bon, on continue évidemment cette passion. Les rendez-vous de midi avec ce colloque scientifique qui arrive sur l'île de Noirmoutier. Pour en parler, Gilles Gerbier, puis également Michel Maillard, vos invités, Emma.
Exactement, c'est un colloque qui a démarré avec des scientifiques du monde entier qui viennent parler des aspects sombres de l'univers, la matière sombre, entre autres. Ces scientifiques qui viennent aussi échanger sur des outils qui permettent l'exploration de ces aspects. Et avec nous, donc effectivement, Michel Maillard, qui est prix Nobel de physique, si vous arrivez aujourd'hui, c'est un des premiers scientifiques à avoir découvert une exoplanète dans l'univers. Aujourd'hui, ce sont plus de 5000 exoplanètes qui ont été découvertes depuis 1995.
Exactement.
Oui. C'est énorme. Et donc avec nous, Gilles Gerbier, qui est aussi scientifique. Vous vous connaissez depuis longtemps, messieurs ?
Depuis 5 ans, peut-être, 4-5 ans.
Depuis l'organisation de ces conférences, en fait. Ça nous a permis de lier... autant des relations d'intérêt scientifique que personnel. Et on apprécie nos approches respectives.
Alors, vous avez proposé à Michel pas mal de temps fort dans la semaine. Alors déjà, le colloque, l'événement a commencé hier avec une première conférence ouverte au grand public à Barbâtre. Un petit mot rapide sur cette conférence.
Alors, un petit mot rapide, c'était à nouveau sur un thème qui n'est pas forcément en relation avec l'univers sombre, mais avec des considération générale sur l'interaction science-société. Donc le thème, on l'a reformulé parce qu'initialement c'était pas terrible, et le thème, je dirais que c'était co-construire le futur avec toutes les sciences et à toutes les échelles. Et donc avec la participation de Michel Spiro, qui est l'ancien président du Conseil du CERN et qui maintenant promeut la décennie internationale des sciences pour un développement soutenable. Donc nous avons eu cette approche très large, et puis l'approche de Elsa Cariou, qui est ingénieure à l'Observatoire des sciences de l'univers de Nantes-Atlantique et qui est co-coordinatrice du projet deux projets, Odyssée-Île et Odyssée-IE, qui concerne au premier lieu les gens qui sont ici.
Évidemment, c'est du local. Demain aussi, un petit peu de local quand même. Vous serez au Salorge, messieurs, dans cette table ronde sur la vie des stars. C'est le nom de la table ronde. Aux côtés de Carlo Rovelli, physicien, évidemment de Michel Maillard, mais aussi de la championne de snowboard cross, Chloé Trespuche, qui est cette semaine en Vendée, d'Alexandre et Céline Couillon, qui sont quand même à la tête du restaurant 3 étoiles de la Marine. C'est une idée quand même très amusante et complètement insolite. C'est votre idée, Gilles ?
C'est une idée qui est née en discutant avec ma femme et puis d'autres collègues. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas associer les plus hauts niveaux scientifiques, les étoiles scientifiques et les étoiles locales, à nouveau, d'essayer de faire le lien entre les deux. Et donc, on en avait deux naturels, si je puis dire, Alexandre et Céline Couillon, qui ont ce restaurant qui a eu sa dernière étoile, sa troisième étoile l'an dernier, et puis Chloé Trespoche, qui est une championne olympique de snowboard à Saint-Jean-de-Mont. C'est un petit peu original, mais elle est de Saint-Jean-de-Mont.
Et elle va être ce soir, d'ailleurs, saluée par la municipalité qui la soutient, évidemment. Puisqu'elle vient de remporter quand même le globe de cristal, donc la Coupe du Monde. Donc le grand public super chouchouté par votre programmation avec ses rendez-vous d'exception. Demain, ce sera animé par Marie-Odile Manchicourt et elle reviendra, alors cette fois en scène, vendredi, dans un spectacle aux 80 à l'Épine. Évidemment, spectacle scientifique. Le titre, c'est Big Boom Baby, les étoiles ne sont pas éternelles.
Tout à fait. Marie-Odile Manchicourt est aussi une personne que j'ai rencontrée au cours de ma carrière et qui s'attache maintenant à développer ce lien entre les arts et les sciences pour toucher le public. Et donc, non seulement elle va animer cette table ronde insolite, et elle a été très enthousiaste pour ce projet, mais en plus, elle va faire un spectacle, un seul en scène, vendredi, autour d'interviews de scientifiques célèbres, de Ptolémée à Einstein, en passant par Kepler, Newton. Et autant elle va mettre en évidence leurs découvertes importantes, autant elle va aussi parler de la psychologie et de la façon dont ces gens ont abordé cette exploration du monde.
Passionnant. Et alors, pour les passionnés de science, on a le même soir, en fait, un rendez-vous à La Roche-sur-Yon avec Carlo Rovelli, qui vient parler de trous noirs et trous blancs. Alors, rapidement, c'est une nouvelle hypothèse, en fait, qu'il développe.
Alors, Carlo Rovelli...
Hélas.
Carlo Rovelli est un théoricien de formation et qui développe cette hypothèse troublant trou noir. D'autre part, il a écrit beaucoup de livres de vulgarisation de la science. Et son talent d'écrivain et de poète, je dirais, est très apprécié du public, à tel point qu'un de ses livres, qui s'appelle « Sept brèves leçons de physique », s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Et je crois qu'il tient, il est épais comme ça. Évidemment, on ne peut pas voir à la radio. Il est tout petit et il a su, en quelques phrases, si vous voulez, transmettre l'intérêt, la curiosité dont parlait tout à l'heure Michel, au public. Voilà, pour ces aspects scientifiques qui sont, pour certains, complètement incompréhensibles. Voilà.
Oui, c'était une de mes dernières questions, mais avant d'arriver à cette question, samedi, c'est un grand temps fort aussi, puisque dans cette démarche de vulgarisation pédagogique, toute la journée, vous invitez le grand public, donc toutes les générations, à l'Épine, au domaine des 80, de 11h à 17h, pour notamment une démonstration d'instruments scientifiques. Et vous invitez, alors je vous cite, le public à venir jouer et découvrir.
Tout à fait, parce que je dirais que la chose principale qui nous anime, c'est la curiosité, et l'esprit, c'est, j'allais dire, de s'amuser, de prendre plaisir à ce qu'on fait. Et c'est très important pour moi de partager ça avec les jeunes. Il ne faut pas que ça soit quelque chose vu comme compliqué, douloureux, inaccessible. Il faut que ça soit des choses avec lesquelles on puisse jouer sur la table et se dire, tiens, il y a un petit truc, que l'étincelle qui s'allume, c'est ça qui nous intéresse.
Et Michel Meilleur, vous serez présent samedi justement dans cette journée où on va allumer des étincelles dans les yeux des participants.
Oui.
Donc on va pouvoir venir vous poser plein de questions aussi.
Peut-être.
Peut-être.
Oui.
J'ai l'impression quand même que vous aurez à cœur de répondre. On pourra.
J'aime bien.
Donc voilà, pour effectivement beaucoup de monde, pour qui la physique, la science est un monde très obscur, au-delà de la matière sombre, j'ai l'impression qu'en venant vous rencontrer toute la semaine et en venant vous écouter, on va en savoir un peu plus, on va peut-être mieux comprendre l'univers qui nous entoure. C'est un peu le but du jeu quand même, hein, c'est de comprendre l'univers qui nous entoure.
Tout à fait.
Merci infiniment d'être venu, parce que vous êtes quand même dans une semaine hyper chargée. Vous avez pris ce temps pour venir sur Nov aujourd'hui. Je vous remercie. Et puis on retrouve l'émission en podcast. Et on rappelle, demain soir, on va venir aussi vous écouter au Salorge avec cette vie des stars.
Merci. Très bien. Messieurs. Merci pour votre invitation.
Merci à vous.
Merci. C'est à quelle heure demain,
tu rappelles ? 20h30.
Voilà.
Alors, quand même, juste une question.
Gratuit.
Tout est gratuit.
Tout est gratuit.
Plus sauf sur réservation. Alors, j'imagine que la jauge est quand même limitée au Salorge. Il vaut mieux s'inscrire ou...
Il vaut mieux s'inscrire.
Alors vous avez un site?
Non, ou... alors attendez, les Salorges, on ne s'inscrit pas pour des raisons historiques, on va dire, c'est ouvert et puis bah, c'est les premiers arrivés qui pénétreront.
Donc 20h30 ça commence, donc on vient bien avant évidemment.
Très bien, donc ne manquez pas ce rendez-vous. Merci messieurs, en podcast, vous l'avez dit Emma, c'est dans quelques secondes. Et puis demain, autre sujet avec la nouvelle édition du festival Nouveau Regard.
Il arrive à la Garnache, on va parler d'art évidemment, avec plusieurs possibilités autour de Sébastien Ménétrier et Jocelyn Jeannot.
Très bien, demain c'est prévu à 12h35 évidemment sur Neuve. 13h, à tout à l'heure.